Nous sommes ici avec Abdulaziz Tchoï, chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Et selon la chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, 1300 civils ont été tués en RDC au cours des 8 derniers mois. Au-delà des chiffres de ces drames humains, dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées?
Plus de 1300 victimes ont été tuées dans plusieurs conflits distincts à l'est du pays principalement, mais aussi dans le Congo central et une partie de Kinshasa. Mais principalement dans l'est du pays, où d'abord par l'Ituri, où nous avons encore les groupes d'assaillants à majorité l'Hindou, dont le noyau dur est composé d'un groupe armé qui est appelé la CODECO, qui s'est rendu tristement célèbre au cours des derniers 18 mois dans l'Ituri à grande échelle de civils, des membres des communautés Hema, Alour et depuis quelque temps. Ces théories ont été étendues à d'autres communautés telles que les Ndo Okebo, les Nyali et également les Mambisa. Il s'agit d'attaques brutales qui avaient été déjà dénoncées par la haute commissaire à l'occasion de sa visite en RDC en janvier, au cours de laquelle elle avait réellement appelé ces groupes armés, réellement déposer les armes et à rejoindre un processus de paix. Il y a aussi le Nord Kivu. Le Nord Kivu où nous avons ce qu'on appelle les forces démocratiques alliées, ADF en sigle, qui continuent à tuer, piller et à mettre cette partie de la province du Nord Kivu à feu et à sang. Depuis les opérations qui ont été lancées à la fin de l'année 2019, des opérations militaires, ce groupe armé s'est dispersé en plusieurs groupuscules qui aujourd'hui mène des attaques avec une grande mobilité et parvient à contourner les lignes des forces de défense et de sécurité et à infliger de lourdes pertes aux personnes civiles. Et a même étendu ses activités macabres dans une partie du territoire de l'Ituri où, au cours des dernières semaines et mois, vous avez entendu les massacres qui se poursuivent contre des populations civiles. Il y a aussi le site Kivu. Le site Kivu, où nous avons un conflit qui se déroule, qui n'attire pas trop l'attention malheureusement, qui est un conflit qui oppose des milices et groupes armés affiliés à des communautés, notamment les communautés Banyamulenge, les Bafulero, les Babembe et les Banyundi. Chacune de ces communautés ayant un groupe armé et des milices qui aujourd'hui s'affrontent et s'en prennent également aux civils. Depuis octobre, au moins 74 personnes ont été tuées et au moins 36 femmes et enfants violés. À cela s'ajoutent des incendies de villages qui ont entraîné des déplacements massifs de population. Plus de 110 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été déplacées par les violences qui sont alimentées aussi par des appels à la haine ethnique, des discours de haine qui sont diffusés sur les médias et les réseaux sociaux et lors de déclarations publiques. Des actions sont en train d'être prises avec les autorités judiciaires et les autorités sécuritaires pour essayer d'apporter des solutions à cette situation. Mais comme vous le voyez, la situation elle est très, très critique. La dernière catégorie de violence concerne le Congo central et une partie de Kinshasa, où effectivement on a vu le groupe politico-religieux Bundu Dia Congo, ou que certains appellent aussi Bundu Dia Mala, dont le leader a appelé à des manifestations pour chasser les non-originaires du Congo central. Et du coup, cet appel a été suivi par certains de ses militants qui ont érigé des barricades à la recherche des non-originaires et se sont affrontés avec les forces de sécurité et défense qui ont eu recours à la force de manière excessive. Donc, avec ce qui a occasionné un nombre extrêmement élevé de civils qui ont été tués, au moins 62 et 74 blessés au cours d'incidents qui ont eu lieu entre le 30 mars et le 24 avril.
Selon l'ONU, les groupes armés ont commis des atrocités et des massacres dans la province d'Ituri. Le principal groupe armé reste la CODECO, comme vous l'avez dit. Mais vu la nature communautaire de ce groupe, assistons aussi à des attaques suivies de représailles.
Le seul bémol qui existe pour le moment dans l'Ituri, face aux attaques répétées de la milice, du groupe armé CODECO, c'est que les communautés qui sont attaquées jusque-là se gardent de riposter. Donc, ils s'en remettent à la protection des forces de défense et de sécurité congolaises et de la MONUSCO. Mais rien ne dit effectivement que face au caractère récurrent des attaques, ces communautés n'en viendraient pas à constituer des milices d'autodéfense, compte tenu effectivement du fait qu'en réalité, les violences ont connu une nette augmentation depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement, d'ailleurs, les membres des communautés que j'ai citées, mais aussi des membres de la communauté hindoue qui appellent à la paix et au dialogue, commencent également à être la victime des combattants de la CODECO, mais aussi de ces groupes-là qui attaquent les autres communautés. À l'heure où je vous parle, il y a au moins trois leaders de la société civile et un leader communautaire hindou qui ont été tués pour avoir véritablement appelé à la paix et accepté de participer aux initiatives de paix et de dialogue qui sont mises en œuvre par le gouvernement provincial avec le soutien de la MONUSCO dans le territoire de Diogo.
Et selon l'ONU, le caractère généralisé et systématique de certaines des attaques contre des civils en Ituri et au Nord Kivu peut constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, exact?
Absolument, je confirme. Et d'ailleurs, vous avez vu que la procureure de la CPI a sorti un communiqué hier pour dire en réalité, pour à son tour s'inquiéter des attaques, de la multiplication des attaques armées contre les communautés et dire effectivement que les crimes qui sont en train de se commettre dans l'Ituri relèveraient de la compétence de la CPI. Ce qui veut dire évidemment qu'il s'agit de crimes internationaux, qui dit crimes internationaux, des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Disons crimes internationaux qui relèveraient de la compétence de la CPI. Évidemment, oui, je confirme.
Qu'en est-il maintenant des abus qu'auraient commis les forces de sécurité aussi responsables de graves violations des droits de l'homme?
Oui, ça c'est un problème récurrent que nous dénonçons et que nous déplorons depuis à longueur de rapport sur la RDC, où nous avons aussi les forces de défense et de sécurité qui, dans le cadre des opérations de sécurisation visant à protéger les civils et leurs biens, ces forces-là elles-mêmes sont auteurs de violations des droits de l'homme, c'est-à-dire de viols, d'exécutions extrajudiciaires, de tortures, mais également de pillages. Il faut dire que nous avons de ce côté-là une bonne coopération de la part des autorités judiciaires militaires congolaises que nous soutenons et qui mènent des enquêtes et parviennent à chaque fois que ces mauvais comportements sont portés à leur attention quand même de mener des enquêtes et à ouvrir des procès contre les auteurs de ces violations graves des droits de l'homme. C'est le lot commun de toutes les opérations que nous avons ici à l'est de la RDC, avec le comportement effectivement de certains éléments des FARDC qui manquent de professionnalisme et ne respectent pas du tout les droits de l'homme dans le cadre des opérations qui sont menées pour sécuriser les populations et leurs biens.
Dernière question, Abdoulaziz Tioy. L'ONU plaide pour des enquêtes crédibles, transparentes, indépendantes. Mais qu'attendez-vous concrètement des autorités congolaises?
Je pense que la haute commissaire, d'ailleurs, l'avait mentionné, avait rencontré les membres de la commission judiciaire mise en place en Ituri, avait rencontré les autorités judiciaires congolaises, l'auditeur général militaire, mais également le ministre de la Justice et le chef de l'État, pour d'abord dire qu'elle appréciait les efforts qui sont en cours, mais que ces efforts-là méritaient d'être soutenus et renforcés. En réalité, il faut un soutien fort qui va définitivement donner un signal réel d'une volonté claire de lutter contre l'impunité. Cette volonté-là, elle existe, mais il faut réellement la réaffirmer, la renforcer et la soutenir. Les autorités judiciaires travaillent dans des conditions très, très difficiles et font face elles-mêmes à une sorte d'insécurité dans le cadre des enquêtes. C'est pas très évident. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, elle dit dans le communiqué que les enquêtes qui ont été établies doivent être crédibles. Donc, les enquêtes ont été lancées. Elle insiste pour que ces enquêtes-là judiciaires soient crédibles, transparentes et indépendantes, avec souvent, comme c'est le cas depuis de très nombreuses années, le soutien de la MONUSCO, mais surtout le soutien du Bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme.
Abdoulaziz Tioy, merci beaucoup.
Merci à vous.